Manuel Déter. Des outils, des récits et de la matière
pour glisser des petits cailloux dans les bottes
et jeter des gros pavés dans la mare agricole.
Une série podcast proposée par Léa Arceau et Émilie Serpotion.
Les bâtiments, je pense que c'est le labo parce qu'il y a une énorme moustiquaire mouchière, je sais pas comment nommer ça, devant la porte là. Et Rachel là, elle est dans le.
Là, normalement, ils sont en moulage de camembert ce matin.
Ok. Alors, ça, c'est le bureau.
Bonjour, non.
Salut.
Hein?
Salut.
Ça va et toi?
Ouais. Vous voulez rentrer dans la chambre?
Bah, sans aussi, ça te met pas dans la
non,
galère.
Non, juste, vous allez mettre des bottes par contre. Là, vous pouvez enlever vos choses ici, prenez ça. Et après, ici, il y a un lave-main. Donc, okay. On appuie avec votre genou et ça. Il y a du savon et.
Épisode 5. Rachel, s'installer et transformer.
Eh ben on prend le temps de prise, c'est-à-dire qu'on a mis le chrono, on a mis la présure. Et le truc, c'est de savoir en combien de temps ça prend pour se dire dans tant de temps, on va pouvoir décailler. Quoi. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Quoi. Et voilà, on a décaillé. Donc là, le petit lait.
Avec la grille, là.
Ouais, c'est ça, on fait avec la... Le tranche caillé demi-lune, parce que c'est une demi-lune, tu vois. Donc, je fais dans les deux sens, ça fait mon prisme en longueur. Et après, avec le tranche caillé guitare, je viens faire la troisième dimension pour avoir des cubes. En fait, on attend que le petit lait remonte. Après, on va brasser légèrement, on va travailler le caillé avant de soutirer le petit lait qui va aller au cochon. Et ensuite, on moulera tout d'un coup, quoi. Et tu vois, je brasse par le bas, c'est-à-dire que je bouleverse pas trop mon cahier, tu vois. J'essaye vraiment de soulever gentiment, quoi.
C'est vraiment les mains dans le camembert, là. C'est la piscine de fromage.
C'est ça. On est presque comme Cléopâtre avec ses bains de Danès.
Je kiffe faire le foin, j'adore amener les vaches à la pâture, faire le tour des pâtures. Quand tu mets les vaches dans une nouvelle prairie et que tu les vois courir parce qu'elles savent qu'elles vont aller dans une autre nouvelle prairie, je suis contente pour elles parce que je me dis, mais en fait, elles sont trop contentes, elles courent de joie. Et après, je les suis et là, elles se jettent sur l'herbe et t'entends des crrr, 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 crrr. Et tu vois qu'elles attaquent la prairie, tu dis, ça va faire du bon lait, quoi.
Alors, nous voilà pour démarrer cet épisode dans le labo de Rachel, éleveuse fromagère. Elle y transforme le lait des vaches de sa ferme en camembert. Enfin, de sa ferme. De celle qu'elle mène en association depuis 2 ans avec Rémi, agriculteur militant, né ici, au début des années 70. Nous sommes à Plessé, en Loire-Atlantique. Terre d'élevage, au passé parsemé de luttes paysannes, et où l'on peut se perdre facilement dans les chemins à vaches. Rachel a grandi bien loin des troupeaux et des prairies. Elle a derrière elle un long parcours de recherche de terres à travers la France, avant d'enfin s'installer là. Il a fallu définir son projet, se former, essayer une fois, puis une autre, et enfin trouver sur quelle terre et avec qui le mettre en œuvre. À l'heure où l'enjeu du renouvellement de la génération agricole est immense, la moitié des agriculteuristes partiront à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Les NIMA, les non-issus du milieu agricole, comme Rachel, représentent au moins 60% des candidats et candidates à l'installation. Mais seulement un tiers d'entre elles et eux iront jusqu'au bout.
Allez les filles, allez, allez! Allez, venez là! Allez, allez!
J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière. J'étais un pays humble et beau, des percherons, j'étais le berceau. Je n'étais pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé et comme le cidre désaltéré. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent.
Du coup, Rachel, je vais avoir 33 ans cet été. Je suis une maman. Ma fille, elle a 5 ans et demi. Mon conjoint est apiculteur. On est tous les deux non issus du milieu agricole. Et moi, j'ai grandi à Marseille, donc dans une famille ultra citadine, quoi. Classe ouvrière. Et du coup, je suis la seule à avoir fait des études supérieures. On avait un tout petit jardin. On n'avait même pas 100 mètres carrés de jardin. J'ai passé ma vie dans le jardin. J'avais 6 ans, je disais à mes parents que plus tard, j'aurais une ferme. Alors, je sais pas pourquoi je disais ça, bien sûr, mais j'aimais voilà, les animaux et tout ça. Et en fait, quand j'ai mené mon projet d'installation, moi, ma grand-mère, elle m'avait dit « Ah ben, c'est rigolo que tu veuilles t'installer, parce que moi, quand j'étais jeune, je gardais les chèvres de mon grand-père dans les Cévennes et tout ça. » Elle m'avait jamais dit ça. Je dis « Mais c'est maintenant que tu me dis que tu as gardé des chèvres dans les Cévennes, les chèvres de ton grand-père et tout ça. » Donc en fait, elle m'a jamais transmis ça, ma grand-mère. Et en fait, ça a sauté une génération, mais peut-être que c'est dans les gènes, hein. On sait rien. Finalement. Rachel, ça veut dire brebis en hébreu.
Ah ouais?
Peut-être que ça vient de là. Donc j'ai fait des études véto agro. J'ai fait une année de césure entre mes deux dernières années d'études. Et là, j'ai voyagé en Amérique du Sud, je suis allée au Pérou, et là, j'ai vu beaucoup d'élevages de petits ruminants, des moutons, des brebis. Et moi, je me suis dit, ah, c'est ça que je ferai. Je finis mon diplôme et je m'installe, quoi. En petits ruminants, en brebis. J'ai visité plein de fermes en France, donc notamment dans le Grand Ouest, Normandie, Bretagne, mais aussi je suis descendue dans la Creuse. Et à la fin de mes stages, j'ai dit, je cherche du travail. Là, c'est bon, je suis montée en compétences, fini le boulot gratos. Maintenant, on va me payer pour ce que je fais, quoi. Et là, j'ai rencontré des difficultés. Pareil, je savais pas conduire les tracteurs. Et donc, du coup, ça nous embête parce que c'est bloquant. Mais je leur ai dit, vous pouvez me former et tout ça, mais ils voulaient pas me former, quoi. J'avais même passé un coup de fil à un gars en lui disant, un bovin, en plus, un élevage bovin, là, je cherche du travail pour monter en compétences. Et là, c'était en mode, non, mais on cherche pas de meuf, c'est pour faire du travail à l'extérieur et tout ça. Du coup, c'était en mode, t'es une meuf, on te salarie pas, quoi. Ok, donc là, c'était une autre difficulté. Et ensuite, j'avais rencontré d'autres fermes et le fait que j'ai une gosse et tout ça, les questions c'était, comment tu vas faire pour faire garder ta petite et tout ça? On va chercher une nourrice, il n'y a pas de problème. Et en fait, les gens, ils ne me salariaient pas, mais je sentais pour d'autres raisons, ou ils ne me disaient pas qu'ils avaient trouvé quelqu'un, mais je sentais que c'était problématique que j'ai une petite, quoi, et que je sois déracinée et que je cherche du travail comme ça. J'ai fait un date avec la chambre d'agriculture où il y avait des cédants et des gens qui voulaient rencontrer des porteurs et des porteuses de projets. J'ai rencontré des gens qui m'ont proposé du terrain, mais c'était un peu, c'était assez précaire. C'est en mode, on te file 10 hectares, mais t'as pas de bâtiment, t'as rien. Et je disais, mais si je construis un bâtiment dessus pour de l'élevage, à qui appartient le bâtiment, par exemple? Si c'est moi qui investis dans le bâtiment et qu'à un moment donné, ça capote... Tu me rembourses mon bâtiment ou comment ça se passe? Donc, il y avait des trucs un peu, voilà, du tâtonnement, quoi. Et là, je me suis rendu compte que la ferme idéale, tu la trouves jamais, c'est toi qui la construis, quoi. Avait donné le contact de Rémi Bellet parce qu'il montait une fromagerie avec deux autres fermes. C'est une fromagerie commune en fait. Donc je l'ai appelé en lui disant « Moi je suis fromagère, je cherche du travail, j'aimerais m'installer plus tard. » Et il m'a dit « Écoute, moi je cherche personne pour la transfo parce que la fromagerie elle n'est pas sortie de terre. Par contre, je viens de prendre des mandats en tant qu'élu, donc j'ai besoin de quelqu'un sur la ferme pour gérer la ferme quand je ne suis pas là. » Et moi je lui dis « Moi je ne sais rien faire en bovin. » On peut quand même se rencontrer, voir si ça le fait et si t'es motivé à me former, quoi. Et comme je cherchais à monter en compétence sur de l'élevage, de, de, faire du foin, conduire les tracteurs, gérer les pâtures et les clôtures. Et comme il savait que je voulais m'installer, que j'étais toujours en projet d'association et tout ça, il m'a dit, bah, écoute, ici, c'est possible éventuellement de faire un truc en association, vu que tu as des compétences en fromagerie et tout ça, de monter une fromagerie ici. Donc, un an a coulé. Et au bout d'un an, on s'est dit, bon, ben, cet été, on va lancer le projet d'installation d'association. Donc, on a rencontré les banques, les assurances, on a monté les statuts, on a écrit notre règlement intérieur pendant... Ça a mis 7 mois, tout ce parcours-là. Entre le moment où, avec Rémi, on avait décidé de s'associer. Mais sinon, moi, ça faisait bien 6 ans et demi que j'avais vadrouillé pour me former, du salariat, trouver la ferme. Le parcours à l'installation pour une meuf, je trouve, là, et encore là, on est sur un bon territoire, il est quand même plus énergivore. Là, en Loire-Atlantique, au point info installation, donc là, le premier contact que tu prends avec la chambre, t'as 50-50. Mais dès que t'arrives à l'installation, donc en CDOA, les dossiers, c'est 20% de meufs et 80% de gars. Eh ben, t'as quand même une perte de dossiers féminins, quoi. Donc la question, c'est pourquoi ? Eh ben, tu vas rencontrer pendant ton parcours plein de freins qui vont te dire, bah, en fait, tu lâches l'affaire, quoi. Parce que t'as pas accès au foncier, parce que les banques te font pas confiance, les cédants que t'as en face, bah, ils te font pas confiance.
Reprendre une ferme, quand on n'est pas fille d'agriculteur et qu'on hérite ni du réseau, ni des codes, ni des outils de production, ni du logement, n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre, comprendre et mettre en œuvre. Parfois, celles et ceux qui s'installent le font au départ en retraite de celles et ceux qui laissent leur place. Mais parfois, ils et elles vont travailler ensemble, pendant quelques années. C'est l'option qu'ont tenté Rachel et Rémi Bellé, son associé. Il fait partie de ces rares qui ont vraiment anticipé. Et il a pris le risque de transmettre sa ferme à quelqu'une qui n'était pas du coin. La transmission des fermes, bien qu'un enjeu crucial pour nous tous, reste un sujet tabou pour beaucoup de cédants. Penser l'après, ce qui doit advenir à la suite d'une vie entière passée là. Le travail au centre de tout ou presque est vertigineux. Vendre un morceau de son histoire et de sa place dans le monde n'est pas qu'une affaire de monnaie, mais également de confiance et de sens.
Salut Rémi.
Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 2 micros, nous, juste pour les...
Ça fait maintenant 30 ans que je suis installé sur cette ferme-là, une ferme familiale, qui était à mon grand-père, qui était à mon père, et voilà, que j'ai repris du coup en 95. Une ferme un peu tranquillos, avec une 20aine de vaches laitières et puis 40 hectares de terre. Ouais, forcément, l'idée quand t'as 50 et quelques années, c'est de penser un peu à ta transmission. Mais comment bien le faire, comment bien le penser ? La production laitière, ben, c'est pas bien simple quand même. Ça fait peur à beaucoup de jeunes en fait, parce que voilà, on a pas mal en fait de porteurs et de porteuses de projets qui arrivent sur les territoires sur des projets beaucoup de maraîchage, arboriculture, pourquoi pas la vache allaitante et autres. Mais la vache laitière, ça pose beaucoup de questions. Elle a eu mauvaise presse. C'est un travail du matin, c'est un travail du soir, c'est autrement en fait, c'est vraiment de l'industrialisation laitière en fait qui se passe. C'est-à-dire que on voit de plus en plus de robots en fait dans les campagnes. Sur les territoires, et du coup il y a des jeunes qui vont vers là, et au contraire, s'ils veulent y aller, ils y vont, quoi. Mais d'autres jeunes en fait voient pas l'agriculture comme ça, quoi. Et du coup, Rachel est arrivée en ayant peur des vaches, en n'ayant jamais conduit un tracteur. Est-ce que vous pouvez toujours me prendre ou pas? Ben, je dis, ben, oui, on va essayer, voilà, on va trouver une solution et autre.
Et justement, alors moi ça me questionne, Rémi, tu es la 3e génération, et du coup potentiellement la ferme, elle sort de la famille. Comment ça se deal, ça, pour toi, avec tes enfants, peut-être, ou même toi, par rapport à ta lignée, etc. Parce que c'est un vrai poids culturel aussi qui est là.
J'aimerais bien que Rachel ait le nom Bélé. Non, je ne sais pas.
Tu lui as dit, il fera pour sa fille.
Non, mais voilà, après, c'est... Après, c'est comme ça, forcément. En fait, on est encore dans des générations où on aimerait bien en fait, que nos enfants reprennent la suite. Mais voilà, bon, ils sont partis sur d'autres choses et c'est très bien aussi. Ils sont heureux où ils sont et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui est drôle, en fait, c'est que j'en parle avec eux, avec mes enfants, et eux, en fait, ce qu'ils voient, en fait, c'est de quitter leur maison, quoi. Pour eux, c'est pas possible, en fait, de quitter parce que c'est la maison familiale. Voilà, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs autour de ça. Et du coup, pour eux, c'est plus compliqué. Je suis né ici, moi, donc ça fait 53 ans que je suis dans la maison. Voilà, je pense que dans 4-5 ans, je serai content de quitter la maison, quoi.
Comment vous avez réfléchi de passer de toi, t'as une ferme en individuel, à Rachel qui arrive. Voilà, comment vous avez cogité, qu'est-ce que vous avez mis en place, quoi.
Il grince des dents, Rémi.
C'est à l'arrache.
Non, c'est pas à l'arrache, Rémi. Il faut pas que ce soit à l'arrache.
Je sais, il faut pas que ce soit à l'arrache, mais des fois, c'est un peu à l'arrache.
Quand on passe du temps ensemble, on se retrouve.
Voilà, c'est bien.
Et c'est vrai que les moments...
Fois, c'est bien.
Les moments où on ne se voit pas, bah, c'est là où bah, manque de communication, on voit bien.
Déjà, on cogite pour savoir si on peut travailler ensemble déjà. Parce qu'il y a une personne en fait, qui arrive sur ta ferme et voilà, comme tu le dis, en fait, tu as bossé pendant 25-30 ans tout seul sur la ferme. Est-ce que ça va bien le faire quand même quelque part, quoi. Et puis en plus, c'est une jeune, quoi. Et en plus, c'est une femme, quoi.
Et en plus, elle n'est pas du milieu.
Et en plus, elle est marseillaise, quoi.
Pétard.
Donc voilà, elle cochait vraiment toutes les cases.
Parce qu'il ne fallait pas.
Bah, et toi aussi, quoi. Le mec, 50 ans, tu vois, patron, tout
t'es
ça.
En famille.
Enfin, il y a un peu tous les ingrédients pour que ce soit risqué, entre guillemets, quoi.
Nos 20 ans d'écart, c'est pas... C'est pas rien non plus, quoi, parce que c'est vraiment une autre génération qui arrive en fait sur nos bassins de vie et du coup, ils n'ont pas forcément la même pensée de l'agriculture que nous, quoi.
Concrètement, toi, il y a des choses qui peuvent être confrontantes pour toi par rapport à cette nouvelle génération dans les manières d'être, les pratiques, l'idéologie.
En fait, moi, il y a la. Des fois, la notion du travail. Qui m'alerte en fait un petit peu. Souvent en fait c'est des personnes qui ont déjà travaillé sur d'autres secteurs avec des rythmes bien réguliers et tout ça. Et quelque part des fois en fait on arrive en fait sur des fermes en voulant avoir le même système, le même rythme en fait de travail. Faut pas tout bousculer, puis mourir au travail, loin de là. Mais je pense qu'il faut montrer en fait qu'on est capable en fait d'être paysan et paysanne parce que c'est quand même un milieu particulier quand même. Et c'est ce qu'ils attendent en fait les cédants peut-être des porteurs de projets, quoi.
Pour arriver sur un territoire des fois qui n'est pas le nôtre, c'est bien de s'impliquer, de s'engager dans les collectifs localement parce que c'est là où on apprend les codes, c'est là où on comprend les choses, qu'on monte en compétences aussi sur les parties techniques. Tu parles à tes voisins, tes voisines, à tes collègues. Quand tu prends une responsabilité à la CUMA, tu vois tout ce qui est possible de faire dans les champs, tu comprends un peu la mécanisation par exemple. Mais grosso modo, moi j'ai souvent mis les pieds dans le plat à la CUMA parce que par méconnaissance et parce que aussi, il y avait un truc intergénérationnel, de se dire, bah moi, je comprends pas pourquoi vous fonctionnez comme ça, c'est vieux, c'est à l'ancienne, ça. Et du coup, d'où est-ce sorti là, rien compris. Ben non, j'avais rien compris, j'arrive, personne ne m'explique rien, j'arrive d'un milieu que je connais pas, forcément. Donc il y a aussi cet accueil-là à faire, parce qu'on peut pas juste transmettre sa ferme et que la ferme, elle garde les mêmes pratiques tout le temps, puisqu'on va aller vers des profils qui vont vouloir d'autres pratiques. Et on voit bien aussi avec l'installation des femmes, on voit bien que l'installation des femmes, elle apporte encore un autre regard sur les pratiques, avec moins de mécanisation peut-être aussi. Il ne faut pas oublier les femmes qui représentent aujourd'hui que 25%, mais qu'en fait le vivier de femmes, il est de 50-50 en fait. Et c'est là où le défi, il est quand même assez important, entre la nouvelle génération et les genres, quoi.
Rachel et Rémi, on entend leur complicité. Posée là, auprès de l'étang. L'envie que ça marche, qu'elle prenne la relève et que lui passe à autre chose d'ici quelques années. Que la transmission se fasse sur un temps plus ou moins long. Si on écoute bien, on entend aussi que ça n'est pas simple. Que parfois, ils ne se croisent pas pendant plusieurs jours, tout à leurs tâches respectives. que la charge de travail est intense et pas toujours aussi bien coordonnée qu'ils aimeraient.
Tu rentres dans combien de temps, Rachel? Tu rentres quand? Bah là, enfin à la ferme.
Je vais faire le prélèvement aux céréales avec.
Que la fameuse bourde de Rachel à la Cuma, coopérative d'utilisation du matériel agricole, au lieu de gestion collective d'outils et de tracteurs, eh bien, que cette fameuse bourde a fait grand bruit et qu'il a fallu qu'elle aille s'excuser auprès de certains tout en assumant d'avoir questionné tout haut ce que plusieurs pensent tout bas.
Moi, je vous laisse, j'ai pas fini avec les préleveurs. Je peux vous laisser faire ça?
Et que quand il arrive à Rachel d'avoir mal au dos et d'en faire part à Rémi, il a parfois du mal à comprendre son besoin de lever le pied. Bref, tous les points de mise en garde qu'il et elle abordent ne sortent pas de nulle part. Ils savent de quoi ils parlent et ce qu'ils ont encore besoin de travailler. Ils ont 5 ans de collaboration devant eux pour que Rachel puisse reprendre pleinement les rênes d'une ferme solide aux pratiques renouvelées.
Voilà.
Oui, ben donc il vous faut le pH et le calcium échangeur.
On est d'accord.
Voilà.
C'est ce que je me disais. On va faire l'analyse complète et après moi je verrai de mon côté comment je fais l'interprétation. Elle est là-bas. Mm-hmm.
En fait nous on est 100% herbe.
Ben c'est ce qu'on voit.
Ça c'est une prairie, elle a plus de 15 ans.
Ben oui, c'est pour ça que la terre elle est comme ça. Elle serait labourée, elle serait beaucoup plus.
Elle serait un peu plus lessivée, ouais, peut-être.
Ben, et puis beaucoup plus dure à faire, sûrement.
Oui, parce ouais.
Quelle superficie il y a là-dedans?
1 hectare là, sur celle-là, la 15.
Sur toute la parcelle?
Ah ben non, là, il y en a 2.
Ah, 2 hectares.
C'est pour ça qu'il y a des
C'est tout ça, c'est le retour
des vers de terre.
Des vers de terre. On est commune de Plessé, hein?
Ah, Plessé.
Voilà. Donc, type de sol, c'est du limon argileux?
Ouais. Carrément. Profondeur entre 30 et 60.
Oui, hein, oui, bah oui.
Elles sont trop mignonnes.
Travail de sol. De toute façon, c'est labourable.
Oui, c'est arable, ouais.
C'est pas souvent qu'on a affaire à trop.
Pourquoi?
Bah, c'est une fois par. Deux fois par an, à peu près.
Voilà. On a plus d'hommes que de femmes. Il y a pratiquement. C'est ce que je disais, il y a très très peu de femmes agricultrices aujourd'hui.
25%.
On part sur quoi? 6-7 tonnes de matière.
Moi je trouve que j'avais beaucoup de préjugés sur les bovins et je trouve que beaucoup, justement, de femmes ont les mêmes préjugés que moi vis-à-vis du gabarit. Sauf que moi je leur explique. Ouais, une vache, ça fait 350 kilos. Mais tu vas pas essayer de la porter. Alors qu'une brebis ou une chèvre qui ne veut pas monter sur le quai, tu la portes. Donc c'est 40 kilos que tu portes, alors que tu ne devrais pas les porter. Donc en fait, physiquement, les petits ruminants, c'est plus physique. Parce que tu vas porter les animaux, tu vas les tirer. Quand tu tonds une brebis, par exemple, il faut que tu l'attrapes, il faut que tu la retournes. Quand tu fais les onglons à une chèvre, eh ben, tu dois te baisser, ça fait mal. Quoi. Quand, moi, j'en ai tiré des chèvres qui ne voulaient pas monter sur le quai de traite. Hein. Eh ben, je peux te dire... Bah, t'as presque des hémorroïdes, quoi, tu vois. Alors qu'une vache, tu lui fais oh, comme ça avec tes bras, elle avance. Et tu t'es pas cassé le dos, tu vois. Ah bon, à part les bidons de lait où tu as juste à trouver une solution avec les chariots, tout le reste, toute la force que tu peux mettre en. Avoir besoin sur la ferme, ici en bovin, mais moi j'ai trouvé des trucs et astuces de malade. Et au final, quand il y a des nanas qui arrivent là, qui me disent moi j'ai un projet un petit ruminant, je dis t'as pensé aux vaches? Parce qu'il y a beaucoup de fermes en vaches à reprendre, tu vois. J'aime bien le système de Rémi parce qu'il est naturel, il est saillie naturelle, on a beaucoup de haies, on a des prairies, on est 100% herbe. Ça correspondait en fait déjà à mes valeurs de base. Donc c'est pour ça que quand on a commencé à discuter d'une potentielle installation ensemble, je me suis dit, bah oui, si c'est pas sur une ferme comme ça que je m'installe, c'est nulle part ailleurs. Mais en fait, il nous manquait quand même de la surface pour être autonome en fourrage et tout ça. Notre système, il n'était pas vraiment sécurisé. Et dans notre cas, nous, à la ferme de Lancé, ce qui a été fait par la mairie, c'est qu'il y a eu des parcelles agricoles qui se vendaient,
qui se vendait très cher. Donc la mairie, elle a alloué un budget annuel sur de la préemption SAFER. Donc l'outil de régulation du foncier agricole en France, c'est la SAFER. La mairie a demandé à la SAFER de pouvoir préempter ces parcelles-là pour révision de prix parce qu'elles étaient trop chères par rapport à la moyenne locale des ventes et foncières, quoi. Du coup, la SAFER a acheté ces parcelles. Il y a eu 2 semaines de publicité SAFER durant lesquelles d'autres candidats et candidates ont pu déposer leur dossier, quoi. Et grâce à cette demande de préemption à la SAFER, ben nous, on a pu candidater pour pouvoir s'agrandir. Mais c'était un agrandissement naturel, c'est-à-dire pour sécuriser notre système, quoi. C'est-à-dire, grâce à ces parcelles-là, on a remis en herbe, on a fait passer les parcelles en bio, on a de nouveau du linéaire de haies. Ça permettait de sécuriser notre système au niveau des fourrages et du pâturage de notre troupeau, quoi.
Et là, dans le coin où t'es installé, il y a de la spéculation foncière ?
Ah bah oui, de partout en France, de partout en Loire-Atlantique, de partout à Plessé. En fait, il y a beaucoup... La veille foncière de la PAC, la mairie de Plessé aussi, c'est de se dire, on regarde ce qui se vend et à quel prix, et on fait de la préemption SAFER et de la révision de prix sur des parcelles qui se vendent trop cher. Parce que sinon, après, c'est fini. On ne pourra plus installer personne, quoi.
Le moment est donc venu de sauter à pieds joints dans ce sujet hautement sensible et technique de l'accès à la terre. Premier outil de travail des agriculteurs, frein majeur pour les candidates et candidats à l'installation, qui n'héritent pas d'une ferme familiale et qui, de surcroît, n'ont pas de capital. À titre d'exemple, en 2023 en France, le coût moyen d'une installation avec des vaches laitières était de 275 000 euros par personne. L'accès aux terres est au cœur de rapports de pouvoir locaux, d'enjeux de spéculation aussi, et de visions parfois diamétralement opposées de ce que devra être l'agriculture de demain. Néanmoins, en France, la vente et l'achat des terres agricoles ne sont pas complètement soumises aux lois injustes du marché. C'est une affaire régulée par l'État, par l'intermédiaire de son puissant ministère de l'Agriculture et par la profession, via les syndicats agricoles, FNSEA en tête. C'est ce qu'on appelle le système de cogestion, coordonné par un organisme au rôle et au fonctionnement crucial, mais peu connu en dehors des campagnes. Il s'agit de la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
On a rendez-vous avec Émeric Loewy.
Ok, alors bah, merci beaucoup de nous recevoir. Pour démarrer, vous pourriez vous présenter et nous présenter la SAFER.
Oui, pas de souci. Alors du coup, nous sommes donc la SAFER. On est un établissement privé avec des missions d'intérêt général. On est donc une SAFER régionale, SAFER Pays de la Loire. Il y a une SAFER dans chaque région en France. La SAFER a été créée dans les années 60, donc il faut bien se contextualiser. Les années 60, on est à l'après-guerre. Alors on est l'après-plan Marshall et puis c'était la période de mécanisation. Et la période aussi où il y a un grand exode rural et donc un grand nombre de personnes qui habitaient à la campagne partent habiter à la ville pour trouver de l'emploi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, sont créées les SAFER par l'État, avec un statut très particulier, société anonyme, à but non lucratif, sous tutelle de 2 ministères, l'agriculture et les finances. Entre guillemets, l'État dit aux exploitants agricoles, vous avez besoin d'un outil pour améliorer vos structures foncières parcellaires, pour pouvoir faire en sorte qu'avec une machine agricole, vous puissiez cultiver plus de superficie. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir élargir les champs. Donc le but de la SAFER à cette époque-là, c'était de l'amélioration de culture, aussi économiquement de permettre à une personne de produire plus. Donc c'était vu comme étant une amélioration. Aujourd'hui, nous, SAFER, on réalise la plupart de nos missions sur de l'installation-transmission en Pays de la Loire. On réalise également une grosse activité d'intermédiation locative. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui souhaite céder son exploitation, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 60% des chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans, donc un gros renouvellement des générations à venir. Et donc il y a énormément de personnes actives agricoles qui cherchent à transmettre leur exploitation. Donc l'idée, c'est que les SAFER puissent accompagner ces gens-là pour leur permettre de trouver un candidat intéressant. Mais potentiellement, il y aura peut-être des concurrences, donc que ça réponde aussi à la personne qui a le meilleur projet. Et le meilleur, c'est pas le meilleur le plus offrant, c'est la personne qui a un projet qu'elle se justifie le plus localement.
On parle aussi de rapports de pouvoir par rapport à la terre, qui font aussi qu'il y a des agriculteurs qui ont plus facilement accès à la terre et que du coup, bah, des institutions comme la vôtre qui ont aussi un rôle de régulation. Comment elle rééquilibre ça pour qu'il y ait un accès vraiment équitable aux fonciers?
Sur les règles d'attribution, vous les avez évoquées sans les citer. Vous avez dit en fonction du dossier qui obtient comme une sorte de meilleure note. C'est quoi ces critères, justement? Enfin, comment ça marche?
Oui, alors, pour le novice qui nous écoute, parce qu'il faut rester accessible, il y a un SDREA. Alors là, évidemment, on donne encore un sigle.
Schéma.
Schéma directeur régional des exploitations agricoles. En gros,
qui est émis par qui?
Eh bien, par la puissance publique et la profession agricole. Et donc là, pour le coup, il y a la profession qui est majoritaire et aussi toutes les autres professions.
Donc, c'est la cogestion à l'échelle régionale, Chambre régionale d'agriculture, avec des délégations du ministère, par
exemple.
C'est
ça, exactement.
D'accord.
Et tous ces gens-là, ils se mettent autour d'une table, ils se disent, nous, pour l'orientation de l'agriculture dans notre département, dans notre région, on veut que ce soit orienté comme ça. Voilà. Et donc, ils donnent des critères en disant, bah, nous, chaque personne, on lui donne un chiffre de 1 à 10, en disant que celui qui est numéro 10, il est vraiment pas prioritaire, et celui qui est numéro 1, il l'est à fond. La SAFER, elle instruit les dossiers et elle analyse par rapport au SDROA les dossiers. Tout ça, ça passe ensuite devant un comité technique.
Voilà.
Donc le comité technique départemental, CTD, il va émettre un avis. Donc il va recevoir le dossier 15 jours avant le comité technique et il va instruire toutes les candidatures. On aime bien parler du Parlement du foncier quand on parle des comités techniques parce que ça permet à chacun de s'exprimer, évidemment, avec des tendances politiques, avec des poids, avec des majorités et avec des gens qui voudraient parfois aussi avoir plus de pouvoir, des gens qui...
Ce que le directeur de la SAFER ne nous explique pas vraiment pendant cet entretien, c'est que ce soi-disant Parlement du foncier fonctionne de manière corporatiste, très largement gouverné par les membres du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA. Ce syndicat est présent en doublon dans les différents collèges du comité technique, puisque ces agriculteurs adhérents syndiqués sont aussi bien souvent élus locaux, administrateurs de banque, administrateurs de la mutuelle sociale agricole, représentants des fédérations de chasse, etc., etc., etc. Par ailleurs, ces comités se tiennent à huis clos et la teneur des débats pour décider à qui sera vendue la terre n'est pas rendue publique. Alors, certes, beaucoup de pays en Europe nous envient cette instance de régulation du foncier, qui empêche de faire flamber les prix ou veille à une certaine justice foncière, en théorie.
En Loire-Atlantique, 9 à 12 000 parcelles de terre sont mises en vente chaque année. La SAFER n'intervient que si on la sollicite, malgré son rôle de régulation officielle. Même en cas de petits arrangements entre amis ou voisins de longue date pour lesquels les fameuses règles d'attribution prioritaire ne seraient pas respectées. Sauf si un agriculteur ou une collectivité saisit la SAFER pour lui demander de faire appliquer le droit, en s'acquittant au passage de frais à payer. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Rachel et Rémi, où la mairie est intervenue. Car depuis quelques années, la montée des préoccupations écologiques et alimentaires conduit à l'affirmation de nouveaux acteurs dans ce paysage agricole, notamment les collectivités locales rurales qui se doivent de tenir les deux bouts, soutenir d'une part les agriculteurs historiques installés sur leur commune et faire d'autre part de la place aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Dans le village de Plessé, où sont installés Rémi et Rachel, la liste citoyenne élue en 2021 s'est emparée de la question.
Oui, Aurélie, j'ai votre rendez-vous d'arrivée. Les journalistes pour le podcast. Merci. Elle va arriver.
Super.
C'est un enjeu majeur, en fait, le foncier.
Parce Aurélie Mézière, mairesse de Plessé.
Comment, justement, en tant que collectivité, on peut, entre guillemets, peser sur le fait qu'il n'y ait pas de spéculation autour du foncier pour permettre les installations, mais pour permettre que ça perdure, parce qu'on ne peut pas laisser partir les terres à des prix pas possibles. Ça pourrait vite s'envoler. On a eu quelques cas où ça aurait pu partir parce que c'est des terrains, ça part en terrain de loisirs ou pour des chevaux, ou voilà.
Est-ce qu'il y a aussi des outils plus... juridique pour obtenir des terres ou
La mairie a toujours le droit de préempter, ça veut dire qu'elle a le droit de dire bah ça c'est un bien qui m'intéresse, donc elle est prioritaire la plupart du temps, on dit non, on n'est pas intéressé. Et mais s'il y a une maison ou un terrain ou quelque chose qui est d'intérêt public où on se dit tiens, mais non, là il y a un projet, etc. Donc les collectivités ont le droit en fait de passer en premier ou en tout cas de jeter un œil. Il y a beaucoup d'élus qui connaissent pas Vigifoncier et c'est pour ça que il faut sensibiliser en fait autour de ces questions-là parce que tout le monde là pour le coup est concerné en termes de collectivité. Enfin, toutes les collectivités ont forcément un agriculteur au moins sur la commune, donc on peut tous être amené à avoir un œil là-dessus. En tout cas, notre premier pas, c'est au moins s'en occuper, faire attention aux transactions et s'assurer que ça flambe pas, ce qui est déjà pas mal comme première étape. Après, évidemment, c'est pas forcément très bien perçu qu'une collectivité s'intéresse à l'agriculture, parce que c'est un monde qui a ses propres codes, etc., et qui n'a pas forcément envie qu'on vienne... parce que c'est très politisé, l'agriculture, voilà, il faut quand même se le dire. Et donc, il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, parce que évidemment, on intervient, les gens ont l'impression qu'on intervient sur un domaine privé, et c'est un peu de quel droit, vous, en tant que collectivité, vous venez me chatouiller sur un domaine privé.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une collectivité qui axe sa stratégie foncière par l'exercice du droit de préemption, et notamment le droit de préemption SAFER, c'est, et là je vous parle d'un point de vue technique, hein, je vous parle pas de politique, c'est selon nous techniciens une mauvaise analyse. D'un point de vue social, vous imaginez bien que vous, si vous voulez vendre votre terrain, vous aimez peut-être bien votre acquéreur, vous avez peut-être des affinités, il y a peut-être plus d'histoire que ce qui est écrit dans l'acte notarié, il y a peut-être plein de choses qui se passent pas, que nous on n'a pas comme information. Alors quand la SAFER exerce un droit de préemption, elle demande quand même un maximum d'informations, elle fait des enquêtes, elle fait des analyses. Cependant, c'est quand même un couperet qui est rédhibitoire et qui permet à des gens, qui ne permet pas du coup à des gens de continuer. Et donc nous, en tant que SAFER,
justement avec un cadre légal, comme vous dites,
un cadre légal
si ça,
qui est très
si
frustrant.
Ça continue pas, c'est que oui, j'entends, mais c'est qu'il y a des bonnes raisons prévues par un cadre légal.
En effet, ça ne plaît pas toujours à tout le monde quand une collectivité commence à mettre le nez dans les histoires de fonciers et bouscule les rapports de pouvoir et les affinités établis sur un territoire. Mais en France, actuellement, 2/3 des terres partent à l'agrandissement et 1/3 à l'installation seulement. Ceci, dans un contexte de pression foncière et de concentration du pouvoir entre les mains d'une partie de la profession. Alors, bien sûr, la préemption n'est qu'un levier parmi d'autres et certes pas des plus diplomatiques. Mais il devient urgent que les collectivités publiques s'en mêlent. Les non-issus du milieu agricole n'y arriveront pas toutes seules. À moins de croire encore dans le mythe du self-made man à plusieurs milliers d'euros. Ce qui se joue dans ces campagnes, dans ces fermes qui passent d'une main à l'autre et sortent des lignées établies, c'est aussi une chance pour que des mondes socioculturels se rencontrent et que s'apaisent des clivages à la peau dure. Mais pour que cette transmission se fasse, il faudra de l'accompagnement humain, beaucoup, et aussi des réformes économiques et foncières pour sécuriser cet accès aux terres, les retraites des anciens et les revenus des plus jeunes. Car plus les coûts d'entrée seront élevés, plus il sera difficile pour elles et eux de vivre de leur activité dignement et de prendre la relève.
On sait que 1/3 des agriculteurs et agricultrices en France aujourd'hui sont éligibles au RSA. 1/3. Donc là, c'est grave. C'est grave parce qu'à l'échelle nationale, on a quand même énormément de personnes qui nourrissent, mais qui ne gagnent pas leur vie. Moi, ma problématique, c'est moi, à l'échelle individuelle et ma vie perso et tout ça, de me dire ça peut pas durer de toute manière parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent pour rénover ma maison, pour ma famille et tout ça. Mais, à l'échelle nationale, c'est quand même une précarité, quoi. De se dire, il y a quand même de jeunes installés aussi qui sont dans mon cas, alors qu'ils ont des systèmes qui roulent, parce que le système veut qu'on tire toujours vers le bas les produits agricoles, et que le revenu agricole est tellement divers et varié en fonction des fermes. Il y a tellement une différence entre les fermes qu'on peut pas dire qu'il y a une norme, en fait. Et c'est là le problème. Et je vois pas comment on peut attirer des gens à s'installer en n'ayant pas de normes sur le revenu. Pour moi, c'est une problématique aussi dans le renouvellement des générations. Parce que moi, je peux pas dire à quelqu'un « Allez, viens t'installer, tu vas travailler 50 heures semaine et tu vas gagner un RSA ». On va me dire « Ben non, moi je fais autre chose quoi ». Et là, je suis enregistrée à France Travail parce que j'ai le RSA, c'est la nouvelle loi. Et ils me disent « On va faire un point sur votre recherche d'emploi et votre situation ». Moi, je leur dis « Mais j'ai pas de recherche d'emploi, je suis agricultrice, donc lâchez-moi les baskets quoi ». Moi, je me dis même « Mais si les agriculteurs étaient fonctionnaires, ils auraient pas besoin de payer leur outil de travail ». Et c'est ça qui pêche aussi dans les installations, c'est le prix de reprise des outils de travail, qui bénéficie en fait à qui ? Aux cédants qui ont juste capitalisé toute leur vie et aux banques en fait qui se gavent là-dessus, aux assurances et tout ça. Donc en fait, on est tout le temps au bout de la chaîne économique alors qu'on est à la base de la chaîne alimentaire. À un moment donné, il faut de la cohérence économique et sociétale. S'installer, c'est politique, c'est un projet de société en fait de nourrir les gens.
Allez, allez !
La terre d'ici, c'est ma peau, les la tenez fermement. Elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'herbe aura disparu, de quoi vivront les troupeaux ? Crêts et roches apparaîtront comme des eaux qu'on met à nu. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au gouvernement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au gouvernement si plus rien n'arrête le vent.
Merci encore à Rachel et à Rémi. Merci à la mairie de Plessé et à la SAFER des Pays de Loire. Merci à Léa et Théo pour leur accueil, les discussions animées et la salle de traite entêtante. Chers auditeurs, vous trouverez sur le site de Blast, à la page Nos podcasts, Manuel des Terres, tous nos épisodes. Et en lien, les ressources et travaux qui ont nourri nos réflexions. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et surtout, partager nos épisodes. On vous donne rendez-vous avec grand joie l'année prochaine pour une saison 2. Passez un bel été. À bientôt. Allez,
salut.
Désolé, mais ils ont creusé un crasse trou noir infini. Et infini à des millions, moi dessous. Je reste assis seul à genoux en répétant ça va, ça va, ça va, ça va. Jusqu'à ce qu'arrive la bande, les sons des terres du dessous. Salut, nous sommes.